sommes au complet, nous laissons John Connolly reprendre son souffle parce que le pauvre a dû grimper les escaliers en courant pour arriver. Et donc, nous sommes réunis ce matin pour aborder le thème du mal avec cette table ronde qui s'intitule Sympathies for the Devil, qui, le hasard faisant bien les choses, est le titre de la. Ah ben on a mis du sel sous les paupières. Bon, alors, c'est pas grave. J'ai amené mon exemplaire collector, le livre de Thomadé, le recueil de nouvelles de Thomadé qui porte ce même titre, a été réédité aussi chez Folio SL dans la même collection. Mais voici l'ouvrage collector, ça c'est l'édition originale.
C'est la première édition.
La première édition il y a une douzaine d'années, si je me souviens bien, de 2000 je crois.
Oui, ça doit être ça.
Voilà. Et donc, Thomadé, John Connolly, que vous connaissez pour son roman La colère des anges, et Christine Cachor pour sa série des Gracelings, dont le dernier en date est Bitter Blue. Et donc, nous allons aborder ainsi ce problème, en fait, du mal en général que chacun de nos trois auteurs ici présents a abordé dans son œuvre de différentes manières. Alors peut-être puisque le recueil de Thomas porte le même titre que cette table ronde, on peut peut-être commencer avec Thomadé, dont l'œuvre en général exprime quelque part, je dirais, une certaine fascination pour le mal avec un M majuscule.
Bon, d'abord, je suis un peu surpris. Je m'aperçois que Christine et John n'ont pas respecté le dress code de la table ronde. C'est un peu regrettable, mais bon, c'est ça. Plus sérieusement, depuis que j'écris, ça fait 20 ans maintenant, un peu plus. Je tourne toujours autour de la violence. C'est vraiment le thème central de tous mes livres. Alors, comme je disais hier, dans notre table ronde, la violence, elle peut être comique, elle peut être très très dure, elle peut être réaliste, elle peut être surréaliste, elle peut être décalée. C'est Quentin Tarantino qui disait « la violence est un genre en soi ». Je crois ça profondément. Je ne suis pas l'écrivain qui fait un genre qui serait de la fantasy ou du polar ou de la science-fiction. Moi, mon genre, c'est la violence. Donc quand on écrit sur la violence, forcément, on écrit sur la nature du mal. On ne peut pas faire autrement. On écrit sur la nature humaine ou on écrit... Si la violence est surnaturelle, on écrit sur le surnaturel, et ainsi de suite. Comme je viens d'une famille catholique très pratiquante, et que j'ai passé mes 20 premières années à la messe tous les dimanches, et c'était genre messe en latin et compagnie, j'ai grandi dans une culture judéo-chrétienne où la faute était très importante, où le mal... exister, et si on croit en Dieu, ben forcément, on croit au diable. Et c'était quelque chose qui était très ancré dans ma famille, pas le côté on croit au diable, mais le côté Dieu est une partie importante, centrale de l'existence. Dès que j'ai pu m'échapper de ça, je me suis évidemment échappé de ça. Et pour te dire, ça fait des années que j'étudie le bouddhisme, je suis vraiment passé à tout à fait autre chose d'un point de vue spirituel et religieux. Et autre, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie bouddhiste, et même pas la religion. Je ne crois pas forcément en Dieu. Donc voilà, moi j'écris sur la violence, et donc je m'intéresse au mal, et je m'intéresse à la magie. Et c'est, voilà, c'est pour ça que j'ai vécu jeune l'Europe, donc ça s'appelle Sympathies for the Devil. Un de mes autres livres s'appelle Six Notes America, un autre livre s'appelle Stereosuel. Il y a beaucoup de religions.
Et Women Chance.
There is a punk song is Woman in Chains.
Really? Yeah. A punk.
Yeah.
Une chanson punk.
Une chanson punk.
Une chanson nouvelle romantique.
Non.
John, vous-même, vous êtes aussi, vous abordez le problème du mal. Alors, dans La colère des anges, qui fait partie de cette série d'enquêtes et de littérature là, qui s'adresse aux adultes, avec les enquêtes de Charles Parker, et dans La colère des anges, là aussi, on voit quelque part ce qui peut être considéré quasi mal absolu, avec ces personnages dont Brightwell, une sorte de goitreux maléfique, qui est, j'ai vu à un moment, vous le qualifiez de geôlier des âmes.
C'est que quand Thomas, je suis catholique, mais peut-être le sujet du mal ne m'intéresse pas beaucoup. C'est le survivant, les survivants qui m'intéressent. Peut-être il y a tout type de personnages. Il y a des gens qui souffrent, oui. Et après la souffrance, après ça, leur réponse est la colère. Ils sont bitter, oui, bitter?
Amer.
Et ils voulant les autres endurer la même souffrance, oui. Parce qu'ils souffrent et ils veulent voir les autres endurer la même chose. Mais il y a des autres personnes qui souffrent, et après la souffrance, ils désirent que les autres ne souffrent pas. Ok? Et le nom que nous donnons à cette facilité, à cet aspect de notre personnalité est empathie. So, dans mon premier roman, Charlie Parker a souffert, et dans le premier, à le commencement du roman, ou de la roman, il est le premier type. Il est un genre qui a souffert, et il a beaucoup de colère. Beaucoup de la colère. Mais a fini. La conclusion de la roman, il est le deuxième type. Okay? Il est un empath. C'est les gens au côté du mal, fréquemment, n'est pas très très intéressant. N'est pas très très les gens intéressants. Ils sont vicious, un peu stupides, you know, parce que les gens normaux peuvent trouver une occupation propre. Ok? Mais les criminels ne sont capables. De trouver un mode de travail régulier.
Vous oubliez les banquiers.
Pardon?
Vous oubliez les banquiers.
Banquier,
sorry.
Very good, très bien. dans mes livres, il y a des personnages qui sont très très grotesques, très très mal, mes intérêts, comme un écrivain, et dans les autres, et dans les gens à côté du bien, et dans les survivants, les gens qui rencontrent du mal, et sont changés après ça, mais peut-être ils ne sont pas changés pour mal. Ok, parce qu'il pouvait comme une personne après une crise, après des temps très très difficiles, ce n'est pas seulement mal. Ok, ça que m'intéresse peut-être dans la question du mal et du bien.
En fait, c'est la question de la rédemption après.
Oui, rédemption, c'est un mot très catholique, c'est un mot très spirituel. Les écrivains qui m'intéressent, peut-être Gently Burke. Gently Burke, je pense, est le mieux écrivain de roman policier. Ce n'est pas un autre. Gently Burke, qui écrit le roman de Dave Robichaud. Okay, sont situés en Louisiana, ouais. Dans les États-Unis. Ou Matt Connelly, et le roman de Harry Bosch, peut-être. Ou Dennis Lehane. Dennis Lehane, Mystic River, ou le roman de Kenzie et Gennaro. Ces écrivains sont tous catholiques, okay? Sont tous aussi les Irlandais américains. Okay? Et dans ces romans, si on lit Burke ou Connolly ou Lehane, les personnages centraux, Robichaud, Bosch et aussi Patrick Kenzie, cherchent pour la rachat, cherchent pour la rédemption. Il est le facteur en commun, peut-être. Et si on est catholique, si on, on a une fondation ou une jeunesse religieuse, le mot rédemption, le concept du rachat, de la rachat, on enchaîne avec des éléments spirituels, des éléments métaphysiques. Pour recevoir la rachat, pour recevoir la rédemption, on doit faire un sacrifice. Ok? Et peut-être, on doit offrir le sacrifice ultime, comme le Christ. Oui? Pour moi, si on utilise le mot rédemption, c'est des éléments très très importants de ma jeunesse, de ma croyance, qui sont enchaînés avec ça. Ouais. C'est très difficile d'être en métaphysique en une deuxième langue.
Vraiment, il faut remercier John Connolly parce qu'il exprime très bien en français. Des concepts qui ne sont pas évidents, même pour nous, si on voulait les exprimer dans ce qui est notre langue natale. Donc vraiment, merci beaucoup, John, pour votre français.
C'est pas grave.
Ça aussi, c'est le mal. Les choses s'effondrent.
Dans tous les bons magasins, ok.
Christine, chez vous aussi, dans votre série de Graceling, vous mettez en scène des personnages qui, en fait, quelque part, luttent, sont pris entre ces concepts, faute d'un meilleur mot, de bien et de mal, et donc luttent en eux-mêmes pour faire plutôt progresser le bien que le mal.
Hadn't actually expected to talk about this. In fact, my publisher in America has specifically asked me, please stop talking about religion, because you're going to offend someone. But since it has come up so many times, Kishore is an Irish name. I'm Irish American on one side, Italian American on the other, and I was also raised Catholic. And it had a profound influence on my books, on my evil characters, because unfortunately for me, while I respect my family who remains Catholic and it's a very deep, important part of their lives, for me it was an experience of misuse of power and deep misogyny that I had to break free from. I've also studied Buddhism a bit since, and what I think the way it has influenced my books is it has made me really interested in power, the balance of power between people. A lot of characters in my book bad characters are gifted with an extreme power of one kind or another. My most evil villain has the power of telling lies that people believe. So anything he says to you, you will believe him. If you say that lie to someone else, they will believe it. I just love putting people against each other. I love creating characters who are essentially good, but who have a terrible power. One of my main characters is an incredible fighter. She has the power of killing. Another is a mind reader, which is just a very invasive thing to do to someone. I love putting these characters against each other, having them struggle with their own evil and their own power and how they can make something good of it.
D'ailleurs, je ne pensais pas parler de religion parce que mon éditeur américain m'a dit « Arrête de parler de religion, tu vas finir par offenser quelqu'un, il faut absolument éviter le sujet. » Mais bon, vu qu'on en parle, je vais me permettre. Donc, Cashore, c'est un nom qui est irlandais. Alors, d'un côté, je suis irlando-américaine et de l'autre, à moitié italienne et à moitié américaine. Et donc, j'ai une éducation catholique également. Ça a beaucoup influencé mon écriture, notamment l'écriture des personnages diaboliques. Alors, bien que je respecte ma famille qui est donc catholique, personnellement, j'ai plus fait l'expérience du catholicisme comme d'une mauvaise façon de se servir du pouvoir. Et il a vraiment fallu que je m'en éloigne quand j'ai pu. J'ai également étudié le bouddhisme depuis. Donc ça a influencé mes romans parce que justement, moi ce qui m'intéressait, c'était l'équilibre du pouvoir entre les gens. C'est-à-dire que beaucoup de mes personnages ont des dons qui leur donnent beaucoup de puissance, notamment alors, un de mes personnages les plus mauvais qui peut raconter n'importe quel mensonge et on le croira. Et si quelqu'un raconte ce mensonge encore derrière, on le croira également. Donc forcément, ça lui donne un pouvoir assez effrayant. J'aime beaucoup donc, avoir des personnages qui luttent les uns contre les autres. Et qui luttent même avec eux-mêmes, parce que j'aime bien avoir des personnages qui sont bons, mais dont le pouvoir est assez effrayant. Par exemple, un de mes personnages est une combattante phénoménale, elle peut tuer n'importe qui de ses mains. J'ai un autre personnage qui sait lire les pensées des autres. Alors c'est pareil, c'est assez effrayant et très invasif comme pouvoir. Et du coup, j'aime bien justement que les personnages luttent avec leur propre... le mal qui les habite quelque part et qui lutte contre pour finalement faire le bien.
Je vais revenir un peu à Thomas parce que là on est lancé dans ces personnages qui sont plus ou moins maléfiques. Qui luttent contre leurs propres aspects un petit peu mauvais. Et dans Sympathies for the Devil, la première des nouvelles du recueil, qui est une forêt de cendres, et je crois que ça a été votre premier texte, un de vos premiers textes en tout cas, il y a ce personnage de Paul de Perth, duc de Dragonshire, qui est vraiment, par essence, un personnage absolument maléfique. Hein, c'est un tueur d'enfants, il exécute toutes les basses missions de sa reine, qui est la reine d'Angleterre, dans un monde qui est en pleine déliquescence, envahi par la banquise, où le mal absolu est incarné par ce que vous appelez le cercle, qui petit à petit dévore le monde. Et ce qui m'a frappé, c'est que chez Paul, qui est vraiment le personnage mauvais par excellence, il y a quand même une toute petite étincelle de bien quelque part, puisque à un moment, il commence par soigner un chien de traîneau qui est condamné. Donc là aussi, vous jouez sur ces... le mal absolu n'existe pas quelque part.
Mais pour resituer la nouvelle, Paul, c'est le bon de l'histoire. C'est vrai qu'à un moment, il tue des enfants, et il y a une raison, c'est qu'il est payé par la reine pour faire, dans un monde qui est broyé par un cercle de ténèbres, qui diminue de plus en plus l'espace vital et qui se rapproche de plus en plus de Londres et n'a plus que l'Angleterre sur la Terre, c'est ce qu'on croit comprendre. Il y a le chaos qui s'installe partout et il est payé par la reine d'Angleterre pour faire régner l'ordre. Et le seul moyen qu'il ait trouvé pour faire régner l'ordre dans ce monde-là, c'est de le faire régner par la terreur. Mais c'est pas quelque chose qui lui plaît particulièrement, c'est juste qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens. Et comme il est rongé par des vers, il a attrapé une maladie qui donne le cercle, comme beaucoup d'autres, il est vraiment effrayant. Et donc il utilise son apparence pour faire régner le bien, entre guillemets, l'ordre contre le chaos. Et cette nouvelle, c'est vraiment une nouvelle de rédemption. Et en fait, le personnage, derrière son aspect physique effrayant, qu'il accentue, est quelqu'un qui passe son temps à écrire à sa mère. Enfin, voilà, c'est « Chère maman, je suis à tel endroit, il s'est passé tel truc. » Bon. Ce texte-là, et beaucoup d'autres textes que j'ai écrits, ils viennent de quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on regarde la guerre des étoiles, qui est un truc qui a bercé mon enfance, comme beaucoup, ou quand on lit Le Seigneur des Anneaux, on n'a pas le point de vue de Dark Vador, on n'a pas le point de vue de Sauron. Ce sont des mâles qui sont incarnés ou désincarnés, le mâle progresse, et on ne sait pas pourquoi ils progressent, on ne sait pas pourquoi ils veulent tout péter, on ne sait pas pourquoi ils veulent diriger la galaxie, on n'a pas du tout leur motivation. Moi, je rêverais, enfin, personne ne le fera jamais, mais je rêverais de lire La Guerre des Étoiles du point de vue de Dark Vador. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi il est tellement puissant? Pourquoi il est aux ordres de l'Empereur? Etc, etc. Et pourquoi à la fin du Retour Jedi, il dit à son fils, toi et moi, nous pourrions diriger la galaxie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Dans Le Seigneur des Anneaux, j'adorerais avoir le point de vue de Sauron. Même si Sauron est une espèce de métaphore, j'adorerais avoir son point de vue. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, ben voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire de la fantasy, du polar, de la littérature générale, du point de vue de ces personnages qu'on considère comme mauvais, comme méchants, et essayer de trouver quelles sont leurs motivations, pourquoi ils avancent comme ça. Et donc, Une forêt de sang, c'est vrai que c'est un de mes tout premiers textes. Je pense que je peux difficilement le relire sans avoir des frissons d'horreur, qui sont dus au style plus qu'à autre chose. Mais un de mes premiers romans, c'est La Voix du Sabre. La Voix du Sabre est un roman initiatique où on suit un jeune garçon qui va accompagner un samouraï de légende qui est Miyamoto Musashi sur la Voie du Sabre. Et au fur et à mesure des enseignements de Miyamoto Musashi, ce jeune garçon va prendre les enseignements de travers et va devenir le méchant de l'histoire, vraiment le méchant, un type abject. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est ça qui m'intéressait, et je pense, je peux me tromper, mais je pense que d'abord la couverture est très belle, ça a aidé au succès du livre, mais le fait que c'était une fantaisie racontée du point de vue du méchant, qui est un truc totalement inhabituel, ça a aussi aidé beaucoup au succès du livre.
C'est, si je me souviens bien aussi, ce que vous avez fait dans votre roman La Scène des Caresseurs, où c'est vu du point de vue...
L'instinct des caresseurs, c'est Sherlock Holmes qui est un psychopathe, qui est un vrai psychopathe, qui est l'assassin de la reine, il tue pour la reine d'Angleterre. Et donc il passe son temps à se picouser, il aime beaucoup les femmes, c'est un Sherlock Holmes très différent. C'est une espèce de Casanova marié avec William Burroughs, quoi. Bon, c'est assez explosif. Et en fait, il se racontait du point de vue de Conan Doyle, qui est un Anglais très digne, qui a été kidnappé de notre monde pour aller dans le monde de Sherlock Holmes, qui est un monde parallèle, où il y a aussi des extraterrestres, il se passe plein de trucs. Et donc, c'est le point de vue de Conan Doyle qui est horrifié par cette espèce de type qui est à la fois génial mentalement et qui est un vrai psychopathe, cocaïnomane, qui est marié avec une femme indienne. Enfin, bon, c'est un Sherlock Holmes très, très différent.
Conan Doyle a né à Belfast. So, pour les Irlandais, Conan Doyle est Irlandais. les Anglais voulant tous les écrivains.
Bram Stoker est Irlandais. C'est
Irlandais. Peut-être Irlandais.
Bram Stoker est Irlandais.
Un peu Irlandais. Si Jacques Charlton est encore en charge de l'équipe de football irlandais, probablement il a recruté Conan Doyle pour l'équipe. Parce que c'est compliqué, mais Jack Charlton a l'opinion que un genre va en vacances à Irlande, peut-être ce genre a la capacité de jouer pour le football, le team football irlandais, c'est très peculiar. Pardon.
Non, mais nous sommes contents d'apprendre que les Irlandais sont partout et tous les bons écrivains ont du sang irlandais. Comme Adé, vous n'avez pas un peu de sang irlandais?
Pas du tout.
L'exception qui confirme la règle de John Connolly. John, là nous avons beaucoup parlé de, hier aussi de cette série pour adultes, mais j'aimerais aussi peut-être qu'on aborde un petit peu votre une série jeunesse que vous avez commencé, que j'aime beaucoup, qui s'intitule, il y a deux romans parus pour l'instant en français, Les Portes et suivi des Les Cloches de l'Enfer, dans le, alors qu'il a vraiment une série jeunesse excessivement drôle publiée à l'Archipel, si je me souviens bien, et dans lequel votre héros, qui est un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Samuel, avec son petit chien, c'est un teckel, si je me souviens bien, qui s'appelle Boswell, lutte en fait contre le mal qui est incarné par sa voisine, Madame Abernathy. Mais évidemment, Madame Abernathy a été possédée par le second de Lucifer, Baal, et Baal donc essaye de faire venir, d'ouvrir une porte sur la terre pour que le mal, avec un M majuscule, suprême avec un S majuscule, puisse nous envahir. Et là aussi, donc, d'une autre manière, vous abordez ce problème du mal.
Mais je pense que les enfants et les petits garçons et filles ont une conception très profonde du mal et du bien. C'est les adultes compliquent ces questions. Parce que, you know, nous avons des affaires. Ok, si nous étions mariés, nous avons des affaires, peut-être nous volons un peu d'argent à la revenue, à la taxman, parce qu'il est nécessaire pour nous, parce que nous devons acheter une nouvelle voiture, peut-être, ou des culottes, parce que, whatever. Mais pour les enfants, il y a sous le monde, des gens qui sont mal et les gens qui sont bons. Okay? Les adultes aiment beaucoup des ombres. Les adultes aiment beaucoup des places qui sont grises. Qui sont grises, with the grey places. Et dans le roman de Samuel Johnson, je voulais offrir à Samuel une grande manifestation du mal. La manifestation la plus grande du mal. Parce que Samuel est un petit homme, ok? Il n'est pas maléficient, il n'est pas bitter, il n'a pas la colère. Mais aussi, dans le roman de Charlie Parker, il y a des barrières sur mon imagination. Mon imagination. Comme le roman de Thomas, j'aime beaucoup utiliser les éléments du surnaturel. Okay? Il me fascine beaucoup. Mais aussi, on doit créer un monde qui est réaliste. Okay? So, il y a une question de balance, peut-être. Il n'y a pas du balance dans le roman de Samuel Johnson. Si on a les cloches d'enfer, si on a le diable, si on a la possession de les femmes suburbaines ordinaires par les forces de à côté du mal, c'est possible de créer quelque chose. Mais la fondation de ce roman est encore la question de, du mal contre du bien. Et Samuel représente n'est pas seulement des forces du bien, mais aussi la possibilité d'être aussi un adulte qui est bien. Okay? Dans le roman, ils sont des moments quand Samuel a la capacité de faire des choses mal. Oui? Mais il choisit le chemin du bien. Ok, so, mais je ne veux pas, pardon, last word, preach. Prêcher. Je just take a point of these, you know. Je dois prononcer les mots anglais en un accent français. Mais je ne veux pas prêcher à les enfants ou à les adultes. Ok, c'est nous n'aimons pas. The preaching. Okay, we don't like it. Why is everybody Jamais.
Non, pas du tout, parce que en fait, dans ce que vous venez d'expliquer, et c'est vrai, c'est apparent, Samuel a le choix. Et comme c'est un. Il choisit bien de la maison, les enfants, la conseil préfère. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est capable d'offrir ce choix à d'autres, et y compris des démons, puisque à travers l'amitié qu'il a avec certains démons, ceux-ci, du coup, deviennent aussi gentils.
Nous retournons à la question de la rédemption aussi. Et dans ce roman, c'est la possibilité pour les démons aussi de recevoir la rédemption. Les deux démons qui sont les amis de Samuel ont fait le choix. Ok? C'est une question de l'espoir, de l'espérance, d'avoir de l'espérance. L'espérance de rédemption, l'espérance de rachat, l'espérance d'une vie meilleure, la vie du bien, d'être une bien personne, une personne bien. Oui?
Oui, ok.
J'aimerais juste rebondir sur cette histoire de prêche. Il y a une expression anglaise qui est show, don't tell, montrer, ne racontez pas. Je pense pour moi que la bonne littérature, c'est une littérature qui montre les personnages, qui ne juge pas, qui ne dit pas voilà, ils sont bons ou ils sont mauvais. C'est le lecteur qui choisit si le personnage est bon ou mauvais. On va avoir ses pensées, on va avoir ses actes, ses interactions avec les autres personnages. Moi, personnellement, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est Blas Blitz. C'est pas du tout le blanc ou le noir, c'est tout ce qui est gris, c'est tout ce qui est complexe, qui n'est pas évident. Et j'aime les personnages, et je trouve qu'il y en a beaucoup, justement chez Denis Lehane, des personnages où Patrick Kenzie est quelqu'un de très complexe. Et c'est pas quelqu'un dont on peut dire qu'il est bon, il n'est pas juste bon. Il est capable d'actes d'extrême violence, il est torturé, il est... Moi, j'aime ce genre de personnage. Je pense que la littérature, elle est là pas pour prêcher, mais elle est là pour nous montrer toute une palette de sentiments humains, y compris des sentiments totalement inconnus, une colère dévastatrice qu'on ne connaîtrait pas ou qu'on n'a pas envie de connaître. Etc. Et je pense qu'elle est aussi là pour atténuer nos propres colères, éclairer nos propres interrogations. Elle a un vrai rôle, alors pas de prêche, mais elle a un vrai rôle d'éclairement. Pour moi, la littérature, ça éclaire.
Mais si on écrit pour les adultes, c'est peut-être un peu plus facile de faire une exploration des places grises, des locations grises, peut-être. Mais pour les jeunesses, mes petits jeunes, bon, c'est peut-être le novel de roman de Samuel Johnson. Je pense qu'ils sont pour les gens qui sont mais peut-être 10 ans, 11 ans. Quand on est une teenager, quand on est un jeune homme et une jeune fille, quand on est 15 ans, 16 ans, les conseils adultes, c'est un peu plus relevant pour vous. Mais quand peut-être on est un petit jeune homme ou jeune fille, il y a une question de, est-ce que vous êtes prêt pour les conseils très très adultes? Parce que quand j'écris pour les petits gens, et c'est possible de lire le roman de Samuel Johnson si on est 15, on est 16, ou si on est un adulte. Il a beaucoup d'humour qui sont capables d'être comprises par les adultes et les enfants. Mais je ne parle pas à les adultes sur les avant les têtes de l'enfant. Je ne fais pas je n'utilise pas les humeurs adultes. Okay? C'est seulement les humeurs qui sont capables d'être compris par les adultes et les enfants à la même niveau. Okay? Mais peut-être le concept de bien et de mal, pour les enfants, on doit. On a peut-être une responsabilité d'être careful, d'être prudent, peut-être, et d'avancer ces concepts net trop vite. Oui, not too fast, non plus.
Pas trop vite.
Ok? Et introduisez ces concepts à le temps juste, à l'âge juste. Mais vous pouvez. Vous disagreez? Vous n'êtes pas agréé?
Je trouve que c'est une question qui rejoint l'éducation. Et moi, je n'écris pas quoi, la jeunesse, j'ai essayé, ça a peut-être quelque chose qui me correspond. Mais je vois avec mes enfants, c'est vrai qu'il y a, des idées, des concepts qui doivent attendre. Ils sont pressés, les enfants sont pressés. Il faut attendre pour leur expliquer, pour parler de certaines choses, etc. Mais il ne faut pas non plus. Enfin, moi, je vois mes enfants, j'essaye de ne pas les considérer plus jeunes qu'ils ne sont vraiment. Ils sont malins et il y a des choses qu'ils veulent comprendre. Et il n'y a pas de raison que je leur dise voilà, t'es trop petit. J'essaie d'expliquer avec les mots de leur âge.
Et si vous voulez dire quelque chose, non, tout ça, c'est bon. Sur les détails prochains, parce que en fait, Christine Roumain, vous écrivez justement pour la jeunesse, pour ce public de 15 ans, les teenagers, et John a exprimé tout à l'heure ce concept que ces personnages, il y a l'espérance, il y a l'espoir derrière. Et il me semble que c'est aussi le thème que vous traitez d'une manière générale dans tous vos romans. Il y a toujours l'espoir pour les gens de créer une société meilleure. Alors ça peut être à travers des révolutions programmées hein, pour renverser des souverains qui oppriment leur population, hein, avec le conseil. Et d'un autre côté, ce qui m'a fasciné, entre autres, dans l'interview, là, c'est ce personnage de ce roi Lick qui dominait la société en imposant, parce que lui avait le don d'imposer sa volonté et de remplacer des vrais souvenirs par de faux souvenirs. Et donc, quand il est assassiné, il laisse une société qui est totalement paranoïaque, qui ne sait absolument plus si tout ce qu'elle a vécu est vrai ou pas, quelles sont les horreurs qui ont été cachées, et donc qui a en même temps maintenant l'espoir de retrouver une vie normale.
write for any particular age. I just write. And then I let the publishers fight over should this be a young adult imprint or should this be an adult. And it actually, in different countries, has fallen in different lines. In the States, they're published for the young adult audience. In some European countries, they're published for the adult. And I don't really care. And I just am happy for whoever to, you know, get something out of the books to read them. I write the book that I would want to read, I think. And I think I write the books I would want to read when I was a teenager and now when I'm 37. So, do you want to start with that?
Sure. Alors tout d'abord, je pense pas que j'écris pour un public d'un âge particulier. Personnellement, j'écris et après je laisse les éditeurs se débrouiller et choisir, même s'ils vont mettre ça en jeunes adultes ou pour adultes. Alors c'est pas pareil dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, je suis publiée pour les jeunes adultes. En Europe, dans certains pays, je suis publiée pour les adultes. Et à vrai dire, je m'en moque un petit peu. Moi, je suis contente qu'on me lise et qu'on retire quelque chose de mon roman, c'est tout ce qui m'importe. Quand j'écris, j'écris le roman que j'aurais aimé lire, que ce soit à l'époque où j'étais adolescente ou aujourd'hui où j'ai 37 ans.
And I do always, as you say, try to include some element of hope. In some cases, it might just be because the stories, especially Bitter Blue, are so dark and there's so much trauma and so much difficult stuff for these people to recover from that my own experience of writing the book can be very dark, and so I might just need the hope for myself as I write it. I don't know, I don't want to write a story without a spark of hope is, again, taking away. I like the gray areas, like Tomas says, and you need both. You need despair. You need people who have no hope. You need people who are destroyed by these events, and there is nothing redeeming that happens to them. But you also need a little bit of, well, you need a little bit of hope, because otherwise, what is the point of people continuing to fight? And I don't know, with Bitter Blue in particular, I put this character, she's an 18-year-old queen, I put her in an impossible situation. And she grew from it. She sprouted rather than being destroyed. And I don't know, I'm not even sure what to say about it. I mean, I don't deliberately sit down and say, do I want there to be hope or not? It just kind of, I let the characters tell me what they want to do, and there does tend to be hope.
Alors effectivement, j'essaye de donner mon espoir. Parfois, comme c'est le cas dans Bitter Blue, l'histoire est tellement sombre, il y a tellement de drames, et c'est tellement difficile pour les personnages, que j'essaye de leur permettre quand même de s'en remettre. Et puis même moi, quand j'écris, quand c'est trop sombre, au final, j'ai besoin aussi d'un peu d'espoir, donc quelque part, je l'inclus dans le roman pour moi aussi. Et je ne veux pas écrire... Enfin, pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait une étincelle d'espoir. Alors, j'aime aussi les endroits gris. C'est vrai que je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de personnages qui vont être complètement désespérés, qui seront peut-être complètement détruits par la situation qu'ils affrontent. Mais on a aussi besoin d'espoir, parce que sinon, à quoi ça sert de continuer de lutter ? S'il n'y a pas d'espoir, ça ne sert à rien. Et donc là, notamment dans Bitter Blue, c'est l'histoire d'une reine qui n'a que 18 ans, et je la mets vraiment dans une situation complètement impossible, mais elle va en sortir grandie. Elle ne sera pas détruite par cette situation, mais je ne sais pas vraiment quoi vous dire d'autre de plus, parce que c'est pas, je ne fais pas ça de façon délibérée, c'est-à-dire que je ne vais pas m'asseoir à mon bureau et me dire « Bon, est-ce que je mets de l'espoir ou est-ce que j'en ai pas ?» Non, moi, c'est mes personnages qui disent ce qu'ils veulent faire, et c'est vrai qu'en général, je viens d'espoir.
Pardon, Joe. La question d'Esperance, de l'Esperance, c'est très, très intéressant. Peut-être c'est un peu différent pour les Français parce que nous avons approprié le monde avec Sartre. Mais pour les autres, Il y a toujours d'espoir. Et pour les romans policiers, si on est un lecteur de ces romans, et si à la conclusion d'un des romans, le criminel n'est pas trouvé, okay? Qu'il n'y a pas de justice, je pense que vous êtes... Vous avez un sens de disappointment, oui, un sens de frustration, parce que vous voulez dans ce livre beaucoup de justice. Oui? Et l'écrivain William Gaddis a dit que dans le monde prochain, nous avons la justice. Dans ce monde, nous avons la loi. Okay? C'est une différence. Et dans les romans policiers, je pense que les écrivains sont très fascinés avec la différence entre la justice et la loi. Oui? Pour les romans pour la jeunesse, pour les romans policiers, pour les romans science fiction, fantastique, surnaturel, en basse, dans la fondation, on doit avoir un peu de justice. Peut-être justice est le mot juste. Peut-être l'espérance est un concept un peu différent. Mais nous cherchons peut-être pour les réponses que nous ne recevons pas dans la réalité. La fiction n'est pas seulement une réflexion de réalité. C'est une version différente. C'est une version plus juste, peut-être.
L'espérance d'un monde plus juste.
Christine, maybe you want.
I think that's, if I understood correctly, that's fascinating, and I'm not sure it's my approach. I really strive for realism when I'm writing fantasy. in the sense of wanting to make it as bad as it really is. But I suppose it is true that you still do know when you pick up the book that at least in some sense, right will win. So I guess actually I do see. So I now reverse.
Hooray!
I agree.
Alors, si j'ai bien compris, en tout cas, je trouve le point de vue tout à fait fascinant. C'est pas forcément ma façon de voir les choses. Quand j'écris de la fantasy, j'essaye vraiment d'être réaliste et de montrer les choses aussi terribles qu'elles sont. Mais bon, quelque part, effectivement, quand on prend un livre, on sait quelque part que le bien va finir par gagner, donc bon, bah, finalement, vous avez raison, je suis d'accord.
Thomas, vous avez peut-être un commentaire.
Ça me fait penser à quelque chose sur l'histoire que le bien doit gagner, ou qu'à la fin d'un roman policier, on doit savoir qui est l'assassin. Il y a un film que j'adore, qui s'appelle Picnic à Indian Rock, et Peter Weir. Et dans ce film, en fait, des jeunes filles disparaissent lors d'un pique-nique en Australie, et à la fin du film, on n'a pas l'explication, et c'est quand même génial.
Mais je finis hier un roman de Patricia Highsmith. Et dans le roman de Patricia Highsmith, vous voulez que le criminel, à la conclusion de roman, le criminel tombe en dit à être libre, à gagner. Mais Highsmith a été un écrivain très unusual, une personne, un genre, une femme très horrible. By all accounts. Thomas Harris, le roman de Hannibal, or Hannibal Rising, or La Sentence.
C'était le silence des animaux.
Oui, Hannibal Gagné. You know, La Sentence d'Hannibal, Hannibal Gagné aussi. Mais dans le silence d'Agneau, il y a deux. Deux personnages mal. Et le genre qui est le plus mal est trouvé mais aussi dans ce roman, Annabelle est, mais parce que Annabelle est libre à la conclusion du roman, peut-être.
Hannibal est le héros. Hannibal est le héros. À la fin, il couche avec la fille et il s'en sort.
I think that your beauty paint movie would have been even more brilliant if it was boys that just threw around it and girls. Donc pour l'histoire du pique-nique où les filles disparaissaient et qu'on n'avait pas d'explication à la fin, ça aurait été encore mieux avec des garçons qui disparaissaient. And that would also be a lot more original. I mean, come on, could we just quit with the girl victims?
But that's real, but it's based on a real story.
Yes.
So, you know,
it's a fake.
Is it not?
No, it's not based on a real story.
Really?
It's a, c'est pas du tout basé sur une histoire vraie, c'est en fait. L'éditeur australien a créé une histoire autour de ce livre, en faisant croire que l'écrivain avait fait des recherches, etc. Mais 10 ans plus tard, il y a un journaliste qui a écrit un livre sur le livre Picnic à Edinburgh pour dire voilà, tout est faux, il n'y a jamais eu de picnic et de film comme ça.
Mais Père Noël, c'est réel, ouais.
Le Père Noël.
And then I just wanted to add to this, I mean, I don't want to get completely off topic, but another huge genre in the same spirit that I love are the thief stories where you are set up from the beginning to want the thief to steal what they want to steal.
Et donc, juste pour redire tout à l'heure par rapport au film sur les jeunes filles qui disparaissaient, bon, elle a trouvé ça pas très original que ce soit des filles, parce que les filles victimes, tout ça, bon, voilà. Par contre, je vais essayer de pas complètement m'éloigner du sujet, mais moi, il y a un autre genre de roman que j'adore, c'est les histoires où, des histoires de voleurs, où dès le début, on est piégé, l'auteur fait en sorte qu'on ait envie que le voleur s'en sorte et arrive à voler ce dont il a besoin.
Là, nous avons abordé des thématiques qui étaient quand même assez graves pour un jour festif, et le temps a passé très vite, je vois qu'il est déjà 10. Donc, si vous n'avez pas été complètement anéanti par les concepts que nous venons d'aborder et que vous avez quand même des questions, c'est le moment.
Alors moi, j'ai une question, mais
une seconde, s'il vous plaît.
Le micro, quand même.
Alors, ma question, c'est de savoir quel a été l'acte le plus violent que vous avez écrit, qui a été difficile à écrire. Et qui a, en fait, vous a libéré.
Oui. Oh, ok.
Qui veut commencer?
Sorry. That freed me is really difficult because my main villain is so perverted and so twisted that writing about him was not freeing. It was extremely depressing, and I would sit down and spend the whole day writing, and then feel dirty, and then go away and come back the next day and look at it and realize it's not creepy enough yet. I have to do it again and make it worse. That was not freeing. I think the violent moment I can think of that really was freeing, and maybe it's because there was a purity of intention in this moment, is when one of my characters has a physical fight with a mountain lion and wins. It's very simple. You're obviously on her side. Even I think even an animal lover would fight a mountain lion and attack them. There's no ambiguity, and it just was a lot of fun to write. And it just felt, yeah.
Alors, c'est pas vraiment libérateur pour moi d'écrire des choses violentes. En tout cas, pour mon personnage le plus mauvais des romans, il est tellement pervers, tellement tordu que franchement, c'était pas du tout libérateur d'écrire sur lui. C'était plutôt déprimant. Je passais une journée à écrire, j'arrêtais, je me sentais sale, c'était affreux. Le lendemain, je revenais, je lisais ce que j'avais écrit et je disais, ah, c'est pas encore assez mauvais. Enfin, il est pas encore assez mauvais, faut que je fasse pire. Alors, c'était vraiment, vraiment pas facile. Alors par contre, une scène violente qui a vraiment été libératrice pour moi, et peut-être parce qu'il y avait une certaine pureté d'intention derrière, c'est mon personnage principal qui se bat avec un puma et qui gagne. Et alors là, forcément on est de son côté à elle, hein, et même les amoureux des animaux, je pense que s'ils se font attaquer par un puma, ils essaieront de se défendre. Hein. Donc il n'y avait aucune ambiguïté et c'était vraiment drôle à écrire et à la fin j'étais juste là, ouais, elle a gagné.
Comment s'il vous plaît, chat?
Chanter?
Crier. Crier, ok. Pardon. Ok, tout le monde a seulement une question de vocabulaire. Pardon, sorry. Quand j'ai cru au moment, dans l'après-midi, je voudrais prendre une heure pour moi, ok? Je vais à la gymnasium, je vais pour un fantastique café pour lire un livre. C'est une période de silence, oui. Un jour, j'ai été à mon brasserie favorite, oui. Et il y a une personne là qui a crié dans son téléphone mobile, oui. Somewhere on the Middle East. Arabia. terrible. And il a été une source de grande frustration pour moi. C'est la ruination de ma jour. Oui? J'ai retourné à la maison et j'ai commencé l'écriture de roman. Recommencer l'écriture. Et le roman est nommé Mauvais Homme en français. Mauvais Homme. Et donc, j'ai recommencé l'écriture. Et dans le livre, deux assassins sont dans leur brasserie favorite. Oui? Et une personne commence créer dans son téléphone mobile, oui. Et les assassins tuent ces hommes, ok, et dans une manière très très violente, ok. Et pas de frustration. Ok, j'ai été libre.
I just want to say that I do the same thing. If you ever wrong me, you will eventually show up in a scene like that.
Donc, je veux pas interrompre, mais juste, je fais la même chose. C'est-à-dire que si un jour vous me faites du tort, vous allez finir dans une scène d'un dernier moment plutôt mal.
Plus personne ne va oser poser de questions à Christine maintenant.
Thomas.
J'ai peur que ma réponse soit beaucoup, beaucoup moins drôle. J'ai écrit l'an dernier, après des années de travail, un recueil qui s'appelle The Woman in Chains. C'est un recueil de nouvelles sur les violences faites aux femmes. Et la violence, bon, ça fait quand même des années que je pratique en écriture. Et c'est ce que j'ai écrit de plus dur, de vraiment ce qui m'a demandé le plus de force et le plus de, comment dire, descendre dans l'écriture, vraiment descendre profond. Et dans ce recueil, il y a une nouvelle sur les viols, il y a une nouvelle sur les femmes battues, il y a une nouvelle sur les disparus de Juarez, qui sont des femmes qui sont tuées à Juarez au Mexique. Il y a une nouvelle sur la nymphomanie, vécu comme une malédiction parce que le regard des autres devient insupportable, alors que je vois pas pourquoi un don juan c'est super, une nymphomane c'est pas super, pourquoi, quelle est la morale qui choisit que c'est comme ça. Et donc dans ce recueil il y a des scènes qui sont très très dures, vraiment très dures, notamment des scènes de viol. Et la difficulté, enfin ce qui était vraiment très dur, c'est pas tellement d'écrire une scène de viol, ce qui est dur c'est de jamais tomber dans le grotesque, c'est de... Vous pouvez rater, mais vous n'avez pas le droit d'être grotesque vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis des personnages, vis-à-vis... Donc, ça a été très dur, ça a été très long. Il y a une nouvelle, j'ai écrit sur 10 ans. Mais quand je suis arrivé au bout du truc, alors ça répond à votre question, je pense que j'étais fier d'avoir fini. J'étais content d'avoir fini. Et j'avais l'impression d'avoir écrit quelque chose qui comptait un petit peu dans... plus que les autres livres que j'avais écrits. Et donc, voilà, ça m'a libéré quelque chose.
Une autre question? Non, ça remercie nos trois intervenants et merci beaucoup John pour vous être exprimé en français.